rapide, mais le temps qui...
Donc vous nous excuserez, mais moi je vais le faire à cappella, sans micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Donc, je vais vous présenter, malheureusement, on a un petit problème technique et vous n'aurez pas les images, vous n'aurez que le son, et on est vraiment désolé. Donc, j'espère que nos explications seront suffisantes et vous arriverez à ce moment-là à mémoriser un certain nombre donc, d'interrogations qui susciteront des questions. Je ferai une halte au bout du troisième point donc, que je vais aborder pour vous permettre justement, un, me permettre de reprendre mon souffle et deux, de poser des questions. Donc, ce qui nous a semblé être la première partie donc, de cette présentation. Donc, pour cette première partie, on va rappeler un peu le contexte, en tout cas historique. Un projet donc, initié dès 1992, un projet qui prévoyait dans un périmètre de 49 communes dans le département des Alpes-Maritimes et qui comprend une démarche de création et des étapes à ce moment-là qui sont bien sûr, de consultation, de concertation des élus locaux, des socioprofessionnels et des habitants. Donc, démarche très importante, et c'est aussi le pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, on est dans la concertation aussi, la présentation aux habitants. Donc, une démarche donc aussi qui a permis, et cette, il y a quelques temps déjà, puisque ça a commencé en 2003, puisque le 6 septembre 2003, les premières réunions d'information au public pour le PNR qui ont rassemblé 300 habitants. Puis une autre, en 2004, donc cette fois-ci 260 personnes ont assisté à la présentation d'un pré-diagnostic d'études de faisabilité, donc étape nécessaire et importante donc pour ce type de démarche. Puis le 15 mai 2004, la présentation d'une étude de faisabilité. Une démarche de sensibilisation a été faite, donc, et qui était très importante auprès des élus, puisque aussi, en tant qu'élus, même si nous savions ce qu'était un PNR, il fallait quand même avoir une certaine culture, avoir une certaine information et savoir ce que les tenants et les aboutissants d'un PNR. Donc, ils devaient partager. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'un voyage d'études a été fait donc, au PNR du Haut-Languedoc, des rencontres avec les responsables des PNR du Queyras, et avec des réunions d'information et de la formation aussi. Donc, a été un travail de modélisation des acteurs du territoire. Donc, des ateliers à ce moment-là ont été créés. On a eu des rencontres de fêtes. Il y a des voyages d'études aussi avec les agriculteurs du canton de Saint-Omban et de Courseboule. Et ensuite, une visite donc au PNR des volcans d'Auvergne. Création d'une association des agriculteurs du parc naturel régional des Plates d'Azur. Donc, ça aussi. Et diverses réunions d'information et débats. Aujourd'hui, le syndicat mixte est dans sa face d'élaboration de la charte au premier trimestre donc 2009 et nous y sommes. Ce sont 8 réunions cantonales qui sont prévues pour informer l'ensemble du territoire concerné par donc ce PNR donc sur ces 49 communes. Puis ensuite il y aura un forum territorial qui aura lieu le 13 mars donc à retenir le 13 mars 2009 au Palais des Congrès de Grasse. De là donc c'est une réunion qui essaiera de rassembler un maximum de personnes donc sur ce territoire. Puis, on s'en suivra donc, pour l'après-midi, les premières commissions thématiques. Donc, il y aura 4 commissions, justement, pour essayer de reprendre vos idées, de savoir à ce moment-là quelles sont les orientations que vous souhaitez voir, donc sur des sujets bien précis, des sujets qui vont vous intéresser et vous sentez concernés. Donc, il y aura une deuxième partie, une deuxième aussi commission donc, thématique qui aura lieu le 27 mars. Donc à la fin de la réunion, Françoise me souffle, ceux qui veulent s'inscrire dans ces réunions thématiques, on vous les donnera ensuite les thèmes, Françoise vous les donnera, donc vous viendrez la voir et vous pourrez vous inscrire à ce moment-là dans ces réunions. Puis fin 2009, puisque c'est un calendrier qui est relativement serré, je pense que ça a été déjà évoqué, il y a un avis intermédiaire donc, et un dépôt du projet de charte. On a besoin de recueillir les avis pour savoir si on est bien sur la bonne direction, si on est bien sur le bon chemin, parce que sinon... Ce serait dommage de travailler autant et puis d'être à côté. Alors maintenant, un point important. Quelles sont les missions du parc naturel régional? Puisque donc les premières missions, protéger le patrimoine à travers une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. Contribuer à l'aménagement du territoire. Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie. Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public. Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans le domaine cité et contribuer à des programmes de recherche. Donc voilà les missions essentielles aujourd'hui d'un parc naturel régional. Et chaque point aujourd'hui va tourner autour de ces thématiques et seront développés justement, vous le verrez donc dans ces fameux ateliers. La charte du PNR implique-t-elle des contraintes? Souvent la question qui est posée, est-ce que c'est comme un parc national? Est-ce qu'il y a la loi derrière? Est-ce qu'il y a un gendarme derrière chaque arbre? Donc aujourd'hui, la charte se situe entre le contractuel et le réglementaire. Contractuel, ben nous sommes 12 d'accord, c'est ça. Le réglementaire, il y a quelques points, mais vous allez voir, ils sont légers. Mais en règle générale, il n'a pas de pouvoir réglementaire, ce parc. Il est construit par vous, pour vous, et donc dans l'entente, et c'est du contractuel. Donc, par contre, compatibilité avec les documents d'urbanisme. Donc à ce moment-là, et avec la charte. Donc ça aussi, il y a un certain nombre d'orientations qui restent prises, par exemple pour la protection des espaces naturels, et bien il faut que les documents d'urbanisme soient en accord et en rapport avec ça. Il y a un certain nombre. Autre point à ce moment-là, réglementation, la publicité dans les zones d'agglomération. Ça aussi, c'est un point qui est donc est clairement dit dans la loi. Définition des voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés. Et c'est tout. Vous voyez que, quelque part, c'est quand même pas énorme. Alors, comment est composé le syndicat mixte? Bon, ça a été cité avant, puisqu'ils ont été remerciés, parce qu'ils avaient en mal la lésion. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc qui adhère. Le Conseil Général des Alpes-Maritimes. Et ensuite, les communes, donc bien sûr dans le périmètre. Et ensuite, les communautés de communes et comités d'agglomération, donc concernées par le périmètre du PNR. Le côté financier. Ah là là. Le Conseil Général PACA, donc, contribue à 50% du budget. Le Conseil Général des Alpes-Maritimes à 35%. Les EPCI sont au nombre de 6 à 5% du budget et les 47 autres communes aujourd'hui adhérentes sur 49 contribuent à 10% du budget. Donc nous avons donc des communes qui sont en cours d'adhésion, qui sont Deuvières et Bar-sur-Loup. Les autres financements bien entendu possibles, eh bien, ce sera l'Europe, État, Région, donc qui pourront, sont sollicités dans des cas bien précis où ils peuvent être. Maintenant, la ressource humaine que dispose le parc. Une équipe technique pluridisciplinaire. Donc, vous avez deux représentantes ici de qualité. Pas les oublier. Un bureau d'études, bien sûr, qui est aussi présent. Et ensuite, une augmentation éventuellement du personnel en fonction des besoins. C'est-à-dire que lorsque nous estimerons qu'il y a réellement un besoin de personnel, eh bien, le parc se dotera, je dirais, des compétences qui ont été à ce moment-là identifiées et qui sont nécessaires pour l'avancement du projet. Possibilité ensuite de partager un peu du personnel ou d'être aidé par les communes ou les EPCI ou ceux qui souhaiteront à ce moment-là, je dirais, participer. Donc, ils seront bienvenus. Ensuite, les missions. Quelles sont donc les missions du PNR? Donc, on a classé ça en trois catégories. En matière de développement urbain, en matière agricole et en matière de développement économique. Je vais vous donner des exemples donc, pour que ce soit assez imagé. Donc en matière de développement urbain, appui technique aux communes dans l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme. Appui au montage de projets d'urbanisme opérationnels. Conseil architectural sur les opérations de restauration, de réhabilitation. Action de requalification des villages. Soutien à des démarches qualitatives sur le logement aidé. En matière agricole, concertation avec les organisations professionnelles agricoles, donc sur l'évolution des pratiques culturales en faveur de l'environnement. Préservation des fonciers agricoles dans les documents d'urbanisme, donc des communes. Appui à la concertation. Appui à la conception des bâtiments agricoles, donc les figures bois, l'intégration paysagère, la requalification des abords. Laboratoire pour l'expérimentation. Relais territorial des dispositifs de contractualisation, donc Natura 2000 et d'autres. Vecteur de promotion des produits du terroir à travers un marque-parc, en matière de développement économique, outils de valorisation de savoir-faire traditionnel, donc les matériaux locaux, les filières spécifiques, outils d'animation, coordination des opérateurs touristiques autour de la conception et de la valorisation de l'offre touristique de qualité, labellisation, stimulateur de recherche de la qualité environnementale, outils pour l'aménagement du territoire, répartition équilibrée sur le territoire de plusieurs maisons de parc nécessaires à l'information publique de la population touristique, la population et du tourisme, excusez-moi. Voilà pour la première partie. Donc est-ce que, peut-être si je vais vous rajouter, je vais